Chaque après-midi, dès 16h30, sur RTL L'Équipe, Carrément Foot, Raphaël Sebaoun.
Bonjour à tous et bienvenue sur RTL L'Équipe pour votre émission quotidienne consacrée à toute l'actualité du ballon rond, émission interactive. Venez participer à Carrément Foot en laissant tous vos messages, les deux solutions, les deux procédés, soit le www.rtl-l'équipe.fr. L'onglet Contactez-nous, sinon vous allez sur Facebook, le groupe RTL L'Équipe, le sommaire de ce mardi 31 mai. Raphaël Sebaoun. Dans un instant et pendant 30 minutes, votre journal du foot, c'est officiel. Les Qataris investissent le Paris Saint-Germain à Lyon. Rémy Garde, pressenti pour succéder au poste d'entraîneur à Claude Puel. Lucho, qui a officialisé son envie de départ de Marseille. Et puis en Angleterre, Paul Scholes prend sa retraite. 17h, les débats de Carrément Foot. Quelles conséquences pour le PSG avec l'arrivée des investisseurs qataris? Quelle équipe la saison prochaine à Paris? Rémy Garde a-t-il la carrure pour entraîner l'OL? Marseille est-il au bord de l'explosion? 17h30, la poursuite des débats. Johan Cabaye va s'engager avec Newcastle. Comprenez-vous le choix du milieu lillois? Blacard, Bogossian, Averti, Prévosto mis à pied. Que pensez-vous des sanctions prises par la Fédé? Carrément Foot, c'est parti! Nous sommes ensemble jusqu'à 18h.
De 16h30 à 18h, RTL L'Équipe est Carrément Foot.
Et juste avant de parler football, retour au tennis. L'actualité du jour, bien évidemment, les internationaux de France, de Roland Garros, que nous suivons depuis le début de la quinzaine. Tout à l'heure, vous suivrez bien évidemment fil rouge hein, sur l'antenne de RTL L'Équipe. Ce match très important entre Gaël Monfils et Roger Federer. Mais pour l'heure, ce sont deux filles qui sont sur les cours. Pavlyuchenkova opposée à l'italienne Schiavone.
Oh, bel accent, Raphaël Sebaoun. Je tiens à vous le dire.
Vous avez vu, j'ai fait des progrès.
Raphaël Sebaoun.
Très bien.
2h24, elles ne veulent pas sortir du cours central, du cours Philippe Chatrier. Ces deux jeunes filles, Schiavone, qui mène 6-5 dans la troisième manche, qui va une nouvelle fois servir pour le gars de la rencontre, puisque après avoir mené 5-2 et d'avoir manqué 3 fois l'occasion de conclure le match, elle s'est fait rejoindre à 5 partout, mais elle a repris tout de suite à 5 partout le service de Pavlyuchenkova. Nouvelle tentative donc pour Schiavone de remporter ce match 7-5, la tenante du titre, et de se qualifier pour les demi-finales. On vous fait signe dès qu'il y a éventuellement une balle de match.
Oh, bah on va rester un petit peu avec vous, quand même.
Ah, bah si vous voulez. D'accord,
ce dernier jeu.
Très volontiers.
Oui, honneur aux dames, on est galants.
Oui, bah, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont envie que ça se termine ici. Et, parce que tout le monde a très envie de voir Federer à mon fils. Et là, 2h24 de Schiavone Pavlyuchenkova.
Ah, c'est quand même une place en demi qui se joue.
Ouais, mais enfin, bon, c'est vrai qu'on s'est pas non plus régalé, hormis sur quelques points.
Set,
c'était pas d'un grand, grand niveau.
Ça crie en tout cas. Hein.
Ah, ça crie. Hein,
allez, je vous l'annonce, elle le fait. Là,
et puis, je peux vous dire, mon cher Raphaël Sebaoun, que. Alors, Schiavone dans la catégorie crieuse, elle est pas mal.
Ouais.
Mais c'est rien par rapport à deux autres quarts de finalistes de ce tournoi que sont notamment Maria Sharapova et Victoria Azarenka.
Ouais, c'est le plus gros décibel.
Les deux, ouais, il y a match. Il y a vraiment match entre les deux.
D-E-S si belle B-E-2-L-E-S.
Ah, pas faux.
C'est bon, ça.
Et ça, c'est juste aussi parce qu'Azarenka et Sharapova sont plutôt deux jolies plantes du circuit.
Hurleuses. C'est horrible, horrible.
15-0 pour Schiavone. Elle est à 3 points du match, Francesca Schiavone, Pavlyuchenkova. Raphaël qui a mené 6-5, 4-2, balle de 5-2, hein, la russe, avant de voir revenir comme un avion Francesca Schiavone. Et derrière, on a cru que ça allait être à sens unique au troisième set, ça a failli l'être. Et puis Schiavone, bah, mine de rien, elle a eu un peu de mal à conclure et la voilà donc du coup embarquée dans un match à rallonge.
Là, ça va être bon.
Mais là, ouais. Pour l'instant, ça défend du côté de Pavlyuchenkova, mais ça ne va pas défendre longtemps comme ça, vu le gabarit de la jeune fille. Et voilà, 30-0, 2 points du match pour l'italienne.
Elle toujours est bien passée, hein, 2 points du match.
Tiens, on n'avait pas encore vu Tatiana Garbin.
Mais si.
Ah bon,
elle est là, là-bas.
Oui, non, mais je sais, mais...
Ah, mais si, non, j'ai montré.
Tatiana Garbin, ancienne joueuse, elle aussi, de l'équipe, notamment de Fed Cup d'Italie. 30-0. Alors, c'est pour aller sur Kuznetsova ou Bartoli en demi-finale. Hein,
qui vont jouer tout à l'heure.
Qui vont jouer tout à l'heure sur le cours de Nenglen, après le double de Mikael Laudra, avec Zimondzic contre Lipski et Ram. Il y a 6-2 pour Lipski et Ram, mais 5-2 pour Mikael Laudra et pour Zimondzic. Donc, il y aura un troisième. Un super tie-break ou pas?
Sans
doute. Bah, sans doute. J'ai un doute. Mais sans doute. Bah, vous savez, le double. Alors, malheureusement, le double ne passionne plus grand monde.
Ce qui est bien dommage.
Bah, oui, c'est spectaculaire.
Avec les frères Brian.
Ah, notamment, les Américains, bien sûr.
Exactement.
Allez, 30-0 pour Schiavone sur son service. Elle est à 2 points du match. Elle monte au filet cette fois. La demi-volée. Oh, elle est ratée cette demi-volée. Elle va être dessus, Pavlyuchenkova. Ouais, 30-15, pardon. Pavlyuchenkova a bien couru sur cette demi-volée amortie, ratée de Francesca Schiavone. Et puis je sais que ça vous intéresse, Raphaël, parce que vous avez, comme tout le monde, remarqué son talent, mais pas seulement. Caroline Garcia, vous savez, la petite française.
Oui. Elle fait le tableau junior.
Elle a gagné aujourd'hui en junior très difficilement, 9-7 au troisième. Elle a été longtemps menée. Et ben, elle s'est accrochée pour venir gagner ce match et se qualifier.
Juste, je rappelle à nos auditeurs que c'est carrément foot, mais pour l'heure, on reste sur le tennis puisque eh bien, on approche de la fin de cette rencontre entre Schiavone et Pavlyuchenkova. Ou pas. Mais bon, si à la fin de ce jeu, il ne se passe rien, je reprendrai la main pour le
faire. Je me disais aussi, ça m'étonnait de vous. Allez, 30-15, deux points du match pour Francesca Schiavone, 6-5 au troisième, elle est au service. Elle est au service pour l'instant, elle monte au filet, c'est trop bizarre ce qu'elle est en train de faire.
Oh là là, mais elle est montée en chaussette
quoi,
aussi, Francesca Schiavone.
Ouais, n'importe quoi.
Complètement raté derrière elle.
30-1, il n'est peut-être pas fini ce match, peut-être pas fini parce qu'aucune des deux joueuses ne veut conclure. Il va falloir patienter un peu à la fin du jeu, c'est peut-être dans deux points, mais pas forcément non plus, mon cher Raphaël Sebaoun. Et là, il se dit, mais pourquoi je leur ai dit de continuer tout le jeu?
J'ai voulu être sympa
Vous n'auriez pas dû.
Non. Bon, mais on va là au bout de ce jeu. De toute façon,
on
a commencé. On va jusqu'au bout.
On va pas vous
jeu.
Laisser l'antenne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Allez, 30A, vous êtes pas étonné, c'est ça que vous êtes en train d'essayer de faire comprendre.
On va couper les micros, hein, ça sera plus rapide. Hein.
Ah,
elle est toujours à deux points du match.
Ce qui a volé monter au filet n'importe quoi parce qu'elle avait cassé la corde.
Aïe.
Oh ben,
et quand vous cassez un cordage, la tension s'évapore dans toute la raquette, vous ne pouvez plus absolument contrôler la balle. Donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un casser une corde, il monte forcément au filet.
C'est bien servi.
Pour conclure le point le plus vite possible.
Le service
de match.
Gagnant là, sur la ligne de Schiavone. Elle retrouve sa première balle au moment où il le faut. Enfin, match point.
Woody Allen dirait match point.
Il dit match point.
Match point. Bah, son film. Non, oui, il dit match point. Mais match point, c'est plus match point, c'est rigolo.
Oui, d'accord.
Vous essayez d'imiter Woody Allen là ?
Non, pas du tout.
Ah, c'est pas très réussi.
Vaut mieux pas.
Pas trop compris.
Woody !
Eh, balle de match là.
Quand même.
Ah bah oui, non mais match point, bien sûr.
Match point.
Magnifique film.
Eh oui.
Ou pas.
Bon film.
Si, très bon.
Vous
film.
L'avez
mais
pas
elle
vu.
Elle est au service, Francesca.
Vous avez vu Midnight in Paris ?
Midnight in Paris,
la première balle.
Ah, vous avez pas encore vu Midnight in Paris.
Bonne première là de Schiavone. Eh bah Pavlyuchenkova qui est rentrée dans la balle encore une fois.
Bah ouais, elles sont contentes d'être dans carrément foot. Elles ont envie d'être avec Raphaël Sebaoun. Elles se disent, il adore Raphaël Sebaoun. On va rester un petit peu plus longtemps que prévu.
Quel succès ce Raphaël.
Il est fou. Ouais,
c'est
il est
pas
fou,
les
là.
Deux plus jolies, hein.
Oh, dites donc.
Oh, mais... comme vous y êtes. Et vous, il y a que ça qui vous intéresse.
Ouais. Hein. Bah non, et quitte à être bien accompagné, autant être bien accompagné.
D'accord.
Hein.
Par contre, dites donc, alors je serai pas là dans les débats tout à l'heure, mais vous devez être ravi là de la du rachat du PSG.
Ah bah, on va en parler, bien évidemment. On rappelle cette information. Alors, c'est un investisseur, c'est un fonds d'investissement qatarien. Hein. C'est pas l'émir du Qatar qui arrive avec 300 millions d'euros. Hein. Faut quand même
Dommage.
Le rappeler. Dommage. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Hein.
Même un fonds d'investisseur qatari, je pense qu'ils arrivent
pas à les mêmes. 50 millions par an, c'est pas mal.
Ils arrivent pas à
les
mêmes.
Pas les dinars dans la valise.
Les dinars.
Exactement.
Allez, à 2h30 hein, quand même, hein,
ouais,
ce
deuxième
match-là.
Balle aussi, là, pour Schiavone.
J'imagine, Federer, il doit être fou de réussir.
Oh là là, il m'avait l'air...
Oh, ligne, ce coup droit de Schiavone. Ah, là, ça joue à la baballe, en plus, je peux vous dire, ça a peur de prendre le moindre risque. Oh là, on est peut-être parti pour toute la nuit, là. Allez, hop. Avec le coup droit de Schiavone qui essaye de travailler mais qui n'arrive pas à faire mal à Pavlyuchenkova. Alors c'est Pavlyuchenkova qui va attaquer la première. Elle va se peut-être procurer une balle de débreak parce que là elle avance bien dans le cours, c'est pas mal. Schiavone, oh le contre de Schiavone joli mais le bon cours croisé de Pavlyuchenkova. Elle rate Schiavone, balle de débreak, balle de 6 partout pour Pavlyuchenkova. Vous êtes sûr que vous voulez pas commencer l'émission?
On va voir l'avantage qu'il donne.
Je vous propose, si à égalité vous commencez l'émission,
On fait ça.
Si à 6 partout vous commencez l'émission aussi.
Vous êtes bien bon, chef.
Comme ça, dans ce point, vous êtes sûr de commencer l'émission. Mais par contre, on interviendra régulièrement pour selon le scénario, s'il évolue ou pas.
Bien évidemment.
Alors, donc, avantage pour Pavlyuchenkova, balle de 6 partout. Elle a eu une balle de match, Schiavone.
Schiavone a eu une balle de match. Schiavone a servi deux fois avant ce jeu-là pour le match. Oh là là, elle avait le double break, on rappelle aussi.
Alors que Pavlyuchenkova, elle a mené 6-5, 4-2, balle de 5-2.
Ah,
elles ont toutes les deux eu leurs occasions. La première est passée, mais l'excellent retour de Pavlyuchenkova, très long, qui travaille bien avec son coup droit là. Eh oui.
Ah,
oh, le coup droit gagnant égalité. Allez, c'est à vous, Raphaël Sebaoun.
C'est parti pour Carrément Foot, bien évidemment. On vous retrouve dans quelques instants, Eric Silvestro et Myrtille Rambion pour la suite de cette rencontre entre Schiavone et Pavlyuchenkova.
Carrément Foot, la Ligue 1.
Et juste avant de parler de l'information du jour, l'arrivée des Qataris donc au Paris Saint-Germain. Information, en tout cas ce qui pourrait être une information très importante puisque Rémi Garde pourrait succéder à Claude Puel à l'Olympique Lyonnais. On en parle avec Willy Maisonnas. Bonjour Willy.
Salut Rafa.
C'est une hypothèse hein, bien évidemment envisagée par l'équipe dirigeante Jean-Michel Aulas. C'est ce qui pourrait être l'information de ces prochaines heures, voire de ces prochains jours.
Oui, exactement. Jean-Michel Aulas qui doit, à mon avis, toujours attendre la réponse de Rémi Garde parce que la balle est dans le camp maintenant de l'actuel responsable du centre de formation de Lyon. C'est visiblement la piste numéro un aujourd'hui pour Jean-Michel Aulas, qui a sans doute été convaincu évidemment par Bernard Lacombe, qui est un pro Rémy Garde, hein, qui soutient Rémy Garde, qui était pour l'option interne. Et finalement, bien Rémy Garde, lui, bien hésite à accepter la succession de Claude Puel. Ce n'est pas la première fois qu'on lui propose d'entraîner l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. C'était déjà le cas au départ de Gérard Rouillet. Et à cette époque, on se souvient que Rémy Garde avait refusé. Aujourd'hui, il a quelques années de plus, hein, 45 ans, 4 années de plus par rapport au départ de Gérard Rouillet. Il a passé son diplôme d'entraîneur, son DEPF. Et donc voilà, c'est sans doute le moment de se jeter, mais il pèse le pour et le contre.
Ça pourrait être un choix logique, hein, Rémy Garde, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, quand on sait et on connaît aujourd'hui qu'il va y avoir un changement de politique, notamment avec l'équipe première et avec les jeunes qui vont être mis plus en lumière qu'auparavant.
Oui, exactement. Il y a plusieurs raisons qui pourraient pousser au choix de Rémy Garde et qui poussent aujourd'hui d'ailleurs Jean-Michel Aulas au choix de Rémy Garde. Déjà, cette politique de restriction budgétaire, Rémy Garde, à mon avis, aura un salaire inférieur évidemment à celui de Claude Puel, qui était estimé autour de 250 000 euros mensuels. Rémy Garde connaît également les jeunes du centre de formation, puisqu'il est actuellement le directeur de ce centre de formation, et Jean-Michel Aulas a répété qu'il voulait s'appuyer là-dessus. Et puis, parce que Rémy Garde est vraiment un homme de la maison lyonnaise. Il a été formé à l'Olympique Lyonnais. C'est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il a été entraîneur adjoint de Paul Le Goen, mais aussi de Gérard Rouillet. Et puis, il jouit d'une belle cote de popularité au sein du club. Bernard Lacombe, par exemple, l'apprécie énormément. Des hommes comme Bruno Genesio, qui pourrait être son adjoint, Rémy Garde, Joël Batz également, l'apprécie aussi. Bref, on a l'impression qu'il remporte beaucoup de suffrages à l'intérieur même du club. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce que veut Jean-Michel Aulas après les années difficiles, Claude Puel.
En tout cas, ça bouge pas mal à l'Olympique Lyonnais, Willy Maisonnas, avec des départs, hein, dans le staff de Lyon. On pense notamment à Sonny Anderson, mais également d'autres personnes comme Gérald Baticle, qui va entraîner les moins de 19.
Alors, Gérald Baticle arrive aujourd'hui pour entraîner les moins de 19 en remplacement de Patrick Payot. Et puis, vous parliez de Sonny Anderson. Sonny Anderson, voilà, qui devrait prendre la direction de Neuchâtel Xamax. Je dis devrait parce que on sait qu'en période de transfert, il peut toujours y avoir un contretemps. Mais c'est vrai que l'affaire paraît très, très bien ficelée. Ce soir, il y a une réunion d'ailleurs à Lyon avec certains responsables de Neuchâtel Xamax, Sonny Anderson également, pour commencer à constituer le staff. Vraisemblablement, la signature devrait intervenir d'ici à 48 heures. On pense à jeudi.
Juge, je vous coupe deux secondes, Willy Maisonnas, puisque ça y est, c'est terminé entre Schiavone et Pavluchenkova. Eric Silvestro m'y retire en bion.
Victoire en effet, Raphaël, de Francesca Schiavone, l'italienne. 1-6, 7-5. 7-5 pour Francesca Schiavone, qui s'impose dans la douleur dans ce match après 2h34, mais qui continue donc sa route, la défense de son titre ici à Roland-Garros. Mirti, ce sera soit face à Marion Bartoli, soit face à Svetlana Kuznetsova.
Ouais, le match qui va avoir lieu dans quelques minutes sur le court Suzanne Lenglen, et ça a été dans la douleur effectivement, parce que un premier set a oublié complètement du côté de l'italienne. Elle n'était pas là, elle a mis 20 minutes, et j'ai envie de vous dire que à rentrer dans la partie, j'ai envie de vous dire que c'est maintenant le meilleur moment du match, c'est-à-dire Francesca Schiavone qui sourit et qui vient, avant de sortir du court, de manger de la terre battue. Vous savez qu'elle adore ça depuis l'année dernière. Voilà, elle ne voulait plus partir en dernier, elle vient d'en manger un petit peu. Elle dit
c'est aussi bon que le concombre et les tomates allemandes, hein.
Non, c'est moins nocif, visiblement.
Ah bon,
ouais. Enfin,
elles
voilà,
sont censées être espagnoles, je vous rappelle.
Elle a gagné, c'est quand même une super performance, même si c'est dans la douleur, parce qu'elle est tenante du titre, et là, elle est déjà qualifiée pour le dernier carré. C'est vraiment une belle performance deux années de suite.
Et à suivre, Eric Silvestro, dans quelques instants, le début de la rencontre entre Gaël Monfils et Roger Federer.
Exactement. Est-ce que vous pouvez transmettre mes amitiés à Willy Maisonnas?
Bien évidemment, il vous entend.
Malgré le sale coup qu'il nous a fait, je tiens quand même à le saluer.
Comment ça, le sale coup? Ah, Monaco, Lyon.
Oui, il a envoyé Monaco en Ligue 2.
C'est pas lui, il y est pour rien, Willy, vous y êtes pour rien.
Je n'y suis pour rien.
Bah, quand même.
On vous retrouve dans quelques instants pour le début de la rencontre entre Gaël Monfils et Roger Federer.
Un bon quart d'heure à mon avis.
Un bon quart d'heure. Ouais. Bon, très bien, on va pouvoir se concentrer à 100% sur le football pendant 15 bonnes minutes, notamment avec vous Willy Maisonnas, hein, sur cette information, en tout cas cette hypothèse Rémy Garde pour succéder à Claude Puel la saison prochaine au poste d'entraîneur. Il y a d'autres personnes qui vont évoluer dans ce club, bouger, partir, arriver. Est-ce qu'on a des informations, Willy ?
Les joueurs, évidemment.
Oui.
Les joueurs, à commencer par les joueurs, bah, il y aura Claude Puel. Ça devrait se faire très 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 rapidement. Les entretiens ont débuté pour débuter la procédure donc de licenciement. Claude Puel, on le rappelle, hein, qu'il restait une dernière année de contrat. Et puis sinon, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui devraient partir. Jean-Michel Aulas l'a très clairement annoncé et aux journalistes dimanche soir dans les couloirs du Stade Louis II et aux joueurs. Hier matin, lors de sa réunion matinale avec eux, il va écumer l'effectif de certains internationaux. On pense évidemment en premier lieu à Michel Bastos, courtisé par la Juventus de Turin depuis maintenant quasiment un an, Ali Sissoko, qui pourrait rejoindre l'Angleterre, et puis Pape Diakaté, dont l'option d'achat ne sera pas levée.
On a un ordre d'idée sur une officialisation de l'arrivée, enfin en tout cas au poste d'entraîneur de Rémy Garde. Est-ce que Jean-Michel Aulas va se prononcer très rapidement ? En tout cas, on l'imagine.
Écoutez, Jean-Michel Aulas doit en tout cas intervenir sur la chaîne du club demain. Une intervention qui sera d'ailleurs enregistrée, parce que dans l'après-midi, Jean-Michel Aulas ne sera plus sur Lyon. Est-ce qu'il choisira ce moment-là ? Est-ce qu'il aura déjà la réponse de Rémy Garde pour annoncer quelque chose à ce moment-là ? Au club, pour l'instant, les responsables en doutent. Mais on le sait, hein, ils peuvent douter à un moment de la journée, puis une demi-heure après, nous annoncer via un communiqué que l'affaire est ficelée. Donc, il faut rester sur ses gardes.
Restons sur nos gardes, restez sur vos gardes, Willy Maisonnas, mais on vous compte sur vous, bien évidemment. Dès que vous avez l'info, vous nous la relayez, vous passez un petit coup de fil, bien évidemment. On vous retrouve ce soir, on refait le match, bien évidemment, aussi.
Ah oui, avec plaisir, après avoir vu la réserve professionnelle de l'Olympique Lyonnais affronter Sochaux. Mmh. C'est les demi-finales des réserves professionnelles, c'est à 18h.
Ah, mais il n'y aura pas Rémy Garde ?
Eh bien, il y aura Rémy Garde très certainement au bord du terrain.
Eh oui, parce que c'est lui l'entraîneur.
C'est
Bruno Genesio, mais il sera dans le coin.
L'entraîneur, c'est Bruno Genesio, exactement, et la réserve de Lyon qui s'est qualifiée aux dépens, ça fera plaisir à Eric, aux dépens de Monaco, samedi, en l'emportant 4-1.
Ah, mais il est parti, hein, Eric Silvestro, là, il se prépare, bien évidemment, pour ce match, ce quart de finale entre Gaël Monfils et Roger Federer. Merci, Willy.
Avec plaisir.
Et on marque une toute petite pause sur l'antenne de RTL Équipe et on se retrouve juste après pour l'information du jour. Les Qataris investissent le Paris Saint-Germain.
Carrément foot, la Ligue 1.
Avec l'information du jour, l'arrivée d'un fonds d'investissement Qataris, c'est officiel au Paris Saint-Germain. Il en revient de la conférence de presse de l'annonce officielle de Sébastien Bazin, l'actionnaire de Colony Capital. Bonjour Philippe.
Bonjour mon cher Raph.
Comment ça va ?
Ah bah ça va plutôt bien. Alors je peux vous dire que la conférence de presse de j'allais dire de présentation du nouvel actionnaire. Non, parce qu'il n'était pas là.
Oui.
Les Qataris, pour l'instant, on ne les connaît pas.
On ne sait même pas.
On ne connaît même pas leur identité.
Exactement.
C'est Fantomas. avec des valises pleines de billets.
Ouais.
Et ça, même cela, ça ne nous a pas été confirmé. Alors, il y avait énormément de monde. J'ai presque envie de dire que c'était la plus belle affluence du parc cette saison. la salle de conférence de presse était bondée. Et effectivement, donc, il y avait M. Bazin, qui est toujours à l'heure actuelle l'actionnaire principal et qui va donc céder 70% des parts du Paris Saint-Germain à ce nouvel actionnaire qu'il appelle ses amis Qataris. Nos amis Qataris, il n'a que ce mot à la bouche. Durant près de 25 minutes, il nous a parlé de ses amis Qataris, mais il vante leur discrétion et il respecte tellement bien cette discrétion qu'il ne nous en a pas dit beaucoup plus sur ce qui va se passer. Donc, il y a confirmation qu'effectivement, c'est bien les Qataris qui vont mettre la main sur le club, que ça va se faire effectivement dans les semaines à venir. Il y a un projet d'accord qui a été signé, donc c'est pour ça que c'est officiel. Et ensuite, tout va aller très vite. Alors, évidemment, ce qu'attend les supporters et tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au Paris Saint-Germain, c'est de savoir si le club va changer de dimension, notamment sur le plan financier. C'est probable, mais ça se fera sur la longueur, dans la durée. D'ailleurs, Sébastien Bazin nous a précisé qu'il ne venait pas là pour faire un coup sur 3 ou 4 ans, que c'était pour s'inscrire dans la longueur et qu'il y avait au préalable des discussions, il y avait eu la nécessité de se mettre d'accord sur les valeurs fondamentales du Paris Saint-Germain pour que la philosophie reste bien la même. C'est aussi la raison pour laquelle Colony Capital ne va pas disparaître du jour au lendemain.
Il reste à 30%.
Ils vont conserver 30% des parts du club et probablement pendant 3 ou 4 ans encore pour justement assurer une transition parfaite et même si ce ne seront plus eux qui auront le pouvoir de décision immédiat dans ce club, ils garderont quand même une voix à hauteur de 30%, donc qui s'entend parfaitement, pour pouvoir justement assurer la transition le plus intelligemment possible.
Alors concrètement, voilà, bon, il y a l'arrivée des Qataris, il y a la saison prochaine qui va se préparer. On peut s'attendre à quoi pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine en termes d'effectifs? Est-ce qu'il va y avoir des restructurations, des changements au niveau de l'équipe dirigeante ou pour l'instant, est-ce que ça ne va pas bouger?
Alors a priori, non. A priori, non, dans la mesure où Sébastien Bazin a négocié la vente du club en cette fin de saison et que le budget prévisionnel pour la saison prochaine sera quasiment le même que celui de cette saison, c'est-à-dire aux alentours de 80 millions d'euros. Alors, il pourrait peut-être y avoir des ajustements et on imagine que si le Paris Saint-Germain a besoin d'une enveloppe de recrutement un petit peu supérieure pour débloquer tel ou tel dossier, ça devrait pouvoir se faire. On peut l'imaginer sans mal, mais il n'y aura pas de transfert record hallucinant cette saison au Paris Saint-Germain. De toute façon, c'est ce matin qu'a été déposé à la DNCG ce fameux budget prévisionnel et il a été évidemment élaboré en étroite collaboration avec les Qataris. Donc très probablement une saison de transition avant peut-être de voir le Paris Saint-Germain entrer dans une dimension un petit peu supérieure.
Ouais, avec cette arrivée donc des Qataris, d'un fonds d'investissement Qatar bien évidemment. C'est une officialisation de la part de Sébastien Bazin, le représentant de Colony Capital, donc qui va céder 70% de ses parts, donc nouvel actionnaire majoritaire, ce fonds d'investissement qatari dont on ne connaît pas encore l'identité, le nom, mais on le saura bien évidemment dans les prochaines heures. Quelles conséquences, bien évidemment, on en parle tout à l'heure dans les débats de Carrément Foot. Merci à vous, mon Fifi.
Merci, mon Raph.
Carrément Foot, la Ligue 1.
Marseille, à présent, Marseille, où en revanche c'est un petit peu plus chaud, un petit peu plus compliqué. On va y revenir sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, dans le flou. En tout cas, on ne saura pas grand-chose peut-être avant le 15 juin. Bonjour Jean-Louis Pacul.
Salut à tous. Pourquoi c'est plus flou et plus compliqué à Marseille?
Ah bah parce qu'on ne sait pas si Deschamps reste, tout le monde veut...
C'est plus compliqué pour le moment, c'est au point mort.
Alors il y a des joueurs qui veulent partir, donc après Ainsworth, on a appris que Luchot voulait s'en aller. Ça vous confirmez, oui. Jean-Louis?
Ah ben je l'ai déjà dit hier,
oui.
J'avais eu le président d'Acier au sortir de la réunion avec Lucho.
Et il paraît que les frères Ayou ont peur maintenant à Marseille.
Oh oui, mais ça c'est... Ils ont peur, oui, tout le monde aurait peur à leur place, mais quand on se fait cambrioler, quand on se fait braquer, hein, c'est autre chose que cambrioler. Mm. C'est-à-dire quand votre famille est alignée le long d'un mur par des mecs cagoulés, armés, avec des gros calibres, qu'on vous vole les clés de vos voitures, vos cartes bleues, vos bijoux... Il y a de quoi être impressionné, de quoi avoir peur et de quoi être inquiet. Mais bon, si vous faites le tour de tous les joueurs de football qui se sont fait braquer de la sorte, bon, Marseille est en tête. Là, Marseille est champion de France, certes, mais il y a eu la même chose à Lyon, la même chose à Paris, voilà. On sait que les truands et les voyous trouvent que c'est plus facile d'aller braquer une maison de joueurs que d'organiser le braquage d'une supérette. Et de ce point de vue-là, c'est souvent le cas. Voilà, on se sert parce qu'on sait qu'il y a de belles montres, il y a des bijoux, il y a quelquefois du liquide, il y a de belles voitures. Voilà, donc les frères Ayou, bien entendu, ils ont été choqués, ils ont été secoués par l'histoire, mais comme le disait André Ayou, avant de partir rejoindre sa sélection, bon, voilà, j'ai dit ça sur le coup de l'émotion, mon avenir est à Marseille.
L'Olympique de Marseille.
L'avenir immédiat est à Marseille, en tout cas.
En revanche, on n'en sait pas plus sur l'avenir de Didier Deschamps à l'OM, Jean-Louis.
Non, alors il est parti ce matin en vacances. Mm-hmm. il a rien dit de particulier. Je trouve que c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais bon, il aurait pu au moins voir ses dirigeants et leur dire bon, allez, il y a une dead list, une deadline au 15, mais bon, je suis plutôt sur le départ ou je suis plutôt sur le maintien. Il a rien dit de tout ça, il est parti en vacances. Bon. Alors on va surveiller de très près la prolongation éventuelle du contrat de Guy Stéphane, son adjoint, parce que ça donnera une indication précieuse. Moi, je crois très sincèrement que Didier Deschamps examine toutes les portes de sortie, mais que à ce jour, il n'y en a pas une qui le satisfasse au point de quitter l'Olympique de Marseille. Donc, pour le moment, il est marseillais, et si ça s'éclaircit pas du côté de Chelsea, par exemple, ou peut-être de Milan, on parle aussi de l'Inter, des contacts avec l'Inter, mais enfin, Deschamps ne partira jamais de Marseille pour aller à la Roma, par exemple.
Qui ne jouera pas avec des champions la saison prochaine, par exemple.
Qui ne jouera pas la Ligue des Champions. On ne quitte pas un club comme l'Olympique de Marseille pour aller s'enterrer, entre guillemets, dans un club de deuxième zone en Angleterre ou en Italie. Donc ce sera soit du très très gros calibre, soit il reste à Marseille. Alors, petite indiscrétion, samedi après-midi, Didier Deschamps a assisté à la deuxième demi-finale du Top 14, Montpellier Metro Racing, dans la loge de l'OM, avec Vincent Labrune. Et il n'y avait dans la loge ni José Anigo, qui finalement n'est pas venu au match, ni Antoine Vera, qui est le directeur financier de l'OM. Donc, ils se sont peut-être dit des choses qui restent secrètes entre les deux, Vincent Labrune étant, comme vous le savez, le président du conseil de surveillance et le bras droit, l'oreille, les yeux de Margarita Louis Dreyfus à l'Olympique de Marseille. Donc, il y a eu quelque chose qui est resté secret, mais que maintenant est tombé dans le domaine public, puisque je viens de vous le dire.
D'accord. Bon, on surveillera bien évidemment
mais,
tout ça.
Pour le moment, rien n'a filtré de cette petite réunion secrète dans la loge OM du Stade Vélodrome.
Et depuis, Didier Deschamps est parti en vacances, se reposer, voilà, faire un petit peu le vide dans sa tête et prendre la décision qu'il prendra donc normalement vers le 15 juin. Merci beaucoup, voilà. Jean-Louis Pacul.
Et le premier contact, c'est Amalfitano.
Ça devrait se faire. Ça pourrait se faire. Voilà, Amalfitano, voilà. Attaquant de Lorient, qui a réalisé une très belle saison avec son compère Kevin Gamero. Merci beaucoup, Jean-Louis Pacul.
Salut à tous.
RTL Équipe, carrément foot. La Première Ligue.
Le championnat d'Angleterre pour conclure la Première Ligue, ou en tout cas avec un joueur qui a marqué l'histoire de son club, Manchester United, c'est Paul Scholes qui arrête sa carrière. Retour sur cette annonce avec notre correspondant Julien Laurence. Salut Julien.
Salut.
C'est un grand nom, hein, de Manchester United qui s'arrête, Paul Scholes donc, qui décide de mettre un terme à sa carrière.
Voilà, effectivement, il l'a annoncé ce matin, on s'en doutait un petit peu, hein, quand même. Il avait plusieurs fois ces dernières semaines fait allusion à une possible retraite, qu'il n'avait pas beaucoup joué cette saison. C'est vrai, il était un peu blessé, puis chaque fois qu'il a joué, il a paru un peu court au niveau du rythme, notamment à 35 ans, hein, faut le dire, déjà près de 17 saisons professionnelles derrière lui. Je pense, et comme lui d'ailleurs, que c'était le temps de s'arrêter. Il a malheureusement perdu son dernier match, hein, cette finale de Ligue des Champions samedi à Wembley, puisqu'il a joué les 13 dernières minutes. Mais voilà, il a jugé que c'était le meilleur moment pour lui pour s'arrêter, pour faire autre chose. Hein. Il est entré dans le staff technique de Manchester United, donc il n'a pas vraiment quitté non plus le club. Il va passer ses diplômes d'entraîneur, il va progresser dans l'ombre de Sir Alex Ferguson. Mais en tout cas, pour Paul Scholes sur un terrain, en tant que milieu de terrain, en tant que joueur, c'est malheureusement bel et bien terminé.
C'est terminé donc pour Paul Scholes, qui semblait, hein, de façon sur le déclin, sur la fin de sa carrière, vous l'avez dit. Hein. C'est vrai que ces derniers temps, ces dernières semaines, il semblait plus à son meilleur niveau.
Oui, voilà, c'est vrai qu'il a eu une saison décevante, hein, Paul Scholes, contrairement notamment par exemple à l'année dernière, où il avait fait 6 premiers mois excellents. Cette année, ça a été beaucoup plus difficile, il a été blessé, il a eu des petites rechutes en plus. Et puis au milieu de terrain, il y a eu surtout l'explosion de son grand pote Ryan Giggs, qui lui a un peu bouché, il faut le dire, l'horizon, puisqu'ils évoluaient plus ou moins à la même place, même si c'est deux profils différents. Mais donc voilà, il avait très peu joué, seulement 13 matchs de championnat, et quand il a joué, ça n'avait jamais vraiment été exceptionnel. Et puis voilà, je pense qu'après 17 ans, contrairement à Ryan Giggs, il est dans une forme un petit peu moins bonne. Et je pense qu'il a vraiment senti que c'était le moment pour lui maintenant de passer le témoin, tout en restant bien sûr au club pour notamment donner des conseils, conseiller les plus jeunes, pour justement apprendre le métier d'entraîneur peut-être pour le futur. Mais voilà, à 35 ans, après près de 17 saisons, il a joué 676 matchs pour Manchester United. Il a gagné 10 titres de champion, 2 Ligues des champions, 5 Coupes d'Angleterre. Voilà, un immense joueur dans un immense club, et je pense que pour Manchester et pour lui, c'était vraiment le temps de s'arrêter.
On pourrait imaginer une reconversion d'ailleurs au sein du club pour Paul Scholes.
Oui, c'est aussi officiel, comme je viens de vous le dire, il entre officiellement dans le staff technique de Sir Alex. Donc pas vraiment comme entraîneur adjoint puisqu'il y a déjà McPhillan, mais en tout cas comme backroom staff, comme il dit ici, c'est-à-dire que il participera aux entraînements, il fera les voyages, peut-être pas tous, notamment à l'extérieur, mais en tout cas il sera là, il conseillera les plus jeunes, il aura un rôle peut-être plus avec les milieux de terrain, puisque c'est son domaine de prédilection, bien sûr, mais en tout cas il reste à coup sûr dans le staff technique de Manchester United dès la saison prochaine.
Manchester United donc qui se sépare, enfin c'est lui qui a décidé de s'arrêter en tant que joueur, en tout cas Paul Scholes qui arrête sa carrière de joueur et qui sera donc dans le staff la saison prochaine. Paul Scholes, et lui qui nous a fait rêver, qui a fait rêver les supporters de Manchester United. Merci Julien Laurence.
Merci à vous.
Et on va marquer une toute petite pause sur l'antenne de RTL L'Équipe. On se retrouve juste après pour les débats de Carrément Foot.
Carrément Foot, c'est sur RTL L'Équipe. C'est l'été chez Intersport. Du 1er au 18 juin, Coach Intersport vous propose les tongs Quicksilver Cooks à 9,95€ seulement. 9,95€ au lieu de 14,95€, soit 33% de réduction. Blanche ou noire, à ce prix-là, prenez les deux. Merci Coach Intersport.
Intersport, le sport commence ici.
Offre valable du 28 au 47 dans les magasins participants.
16h30 et 18h sur RTL L'Équipe, Carrément Foot, Raphaël Sebaoun.
Allez, la deuxième partie de Carrément Foot jusqu'à 18h. Les débats qui vont pouvoir démarrer dans un tout petit instant. On va prendre des nouvelles avant les débats de Carrément Foot de Fernand Duchossois qui a présenté son programme aujourd'hui. On rappelle, l'élection, c'est pour bientôt au sein de la Fédération Française de Football. On reviendra bien évidemment sur la formation du jour puisque les Qataris investissent le Paris Saint-Germain, ce fonds d'investissement Qatar qui donc arrive au PSG, 70% des parts, actionnaire majoritaire. Quelles conséquences pour le PSG avec cette arrivée? Quelle équipe la saison prochaine à Paris? On parlera également de l'Olympique Lyonnais avec Rémi Garde qui pourrait succéder à Claude Puel. Garde a-t-il la carrure pour entraîner l'OL la saison prochaine? Marseille est-il au bord de l'explosion? Beaucoup de joueurs veulent partir. Didier Deschamps n'est pas sûr de rester. On viendra sur le transfert de Johan Cabaye qui devrait quitter Lille pour s'engager avec Newcastle. Comprenez-vous le choix du milieu de terrain lillois? Et puis Blacard, Bogossian qui sont avertis, Prévosto mis à pied. Que pensez-vous des sanctions prises par la Fédération Française de Football? On attend également tous vos messages via le www.rtl-l'équipe.fr, l'onglet Contactez-nous, ou sinon via Facebook, le groupe RTL L'Équipe.
RTL L'Équipe, Carrément Foot, Raphaël Sebaoun.
On va évoquer l'élection de la Fédération Française de Football, la présidence de la Fédération Française de Football avec Jérôme Hilagou. Je vous rappelle également que vous pourrez suivre dans quelques instants le tennis, Roland Garros, les internationaux de France. Dans quelques instants, le début du match de ce quart de finale très important entre Gaël Monfils et Roger Federer. Tiens, on va prendre la température deux petites secondes en compagnie de nos deux envoyés spéciaux, Guillaume Laniel et Clément Grèze. Bonjour messieurs.
Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
Alors, on tape la balle, ça va bientôt démarrer, on l'imagine, entre les deux joueurs qui s'échauffent actuellement.
Guillaume.
Oui. Non. Ah pardon. Non, pardon, pardon.
C'était à vous. Ça tape fort.
On a été pris de court.
Ah, j'ai fait un service trop long.
Vous avez fait un service trop long.
Très profond.
Pas bien retourné. Oui, le match qui va démarrer dans quelques instants sur le court central, sur le court Philippe Châtrier. Vous l'avez dit, entre Roger Federer qui va servir en premier face à Gaël Monfils, un remake de 2008-2009 où l'ancien numéro 1 mondial avait déjà éliminé Gaël Monfils. On l'a senti extrêmement confiant, sûr de sa force, Gaël Monfils, hier en conférence de presse. Mais voilà, enfin c'est à Roger Federer qui n'a pas perdu, Clément, le moindre set, il faut le rappeler, depuis le début de la quinzaine.
Et pour l'instant la balade effectivement est suisse dans ce tournoi. Roger Federer, très tranquille dans ce début de tournoi avec 3-7 contre Feliciano Lopez, Stanislas Wawrinka, Maxim Teixeira, également le Français qui n'a pas résisté à la puissance du Suisse. A signaler également qu'il y aura une autre Française d'ici quelques instants sur le Susan Lenglen, puisque Marion Bartoli va avoir forte affaire dans sa rencontre des quarts de finale, puisque la Française sera opposée d'ici quelques minutes maintenant à Svetlana Kuznetsova, la tête de série numéro 13 et ancienne vainqueur, on s'en souvient, ici à Roland-Garros. Il y a un autre Français en ce moment sur le court, Susan Lenglen, Guillaume Lagnel, oui. Il s'agit de Mickaël Liodra.
Mickaël Liodra qui en double, pour la petite anecdote, Raphaël, vient de s'imposer avec Zimon Gic 2-6, 6-3, 6-1 face à la paire Lipski-Ram.
Et le match qui vient de démarrer entre Gaël Monfils et Roger Federer. Federer qui mène 30-0 sur son service. On viendra vous voir bien évidemment très régulièrement dans Carrément Foot sur RTL l'équipe.
Carrément Foot, l'équipe de France.
Avec l'actualité de l'équipe de France, l'actualité de la Fédération Française de Football, il était à la Fédé et ce matin il a assisté, notre ami Jérôme Ilagou, eh bien, la présentation du programme de Fernand Duchossois, qui est le président par intérim. Bonjour Jérôme.
Bonjour, une semaine après Noël Le Graët, effectivement, Fernand Duchossois a trouvé un tout petit peu de temps dans un agenda de ministre, parce que sitôt la conférence de presse terminée, il est parti à Zurich pour l'élection demain. Et
controversée.
Scandale, oh oui, à la tête de la FIFA. Ensuite, ça sera l'enchaînement avec les trois matchs de l'équipe de France. Et on arrivera, bon an, mal an, quasiment au 18 juin, date de l'élection, à la présidence. Avant cela, il faudra faire campagne, aller voir les électeurs, le foot d'en bas, comme on dit. C'est vrai que le comité de campagne de Fernand Duchossois s'arrache un petit peu les cheveux pour aller le faire sillonner la France avant le 18 juin.
Alors, Fernand Duchossois qui a présenté son programme, qui a présenté aussi les hommes avec qui il allait travailler.
Femme.
Et la femme.
Mm-hmm.
Qui est la femme?
Il y a une femme, effectivement, qui aura le poste de secrétaire général dans cette liste. Une liste assez éclectique avec... un joueur connu, champion du monde, Bernard Lama.
Qui était l'invité d'Emmanuel Barre tout à l'heure.
Exactement, avec Robin Leproux, le président du Paris Saint-Germain, qui a passé toute sa matinée à textoter, visiblement en prenant connaissance des informations au plus près concernant la vente du l'ouverture du capital, en tout cas du Paris Saint-Germain. Robin Leproux qui a expliqué son engagement auprès de Fernand Duchossois, et il a fait un petit trait d'humour d'ailleurs en disant qu'il avait deux licences et que s'il était viré du Paris Saint-Germain, il restait sa licence de joueur et que Fernand pouvait le conserver dans sa liste. Voilà, une liste assez éclectique. Jamel Sandjak également, issu des quartiers bien connus en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, une équipe pour continuer le travail établi. La nouvelle gouvernance, c'est à mettre au bilan et au crédit de Fernand Duchossois, même si son image dans le grand public est loin de faire l'unanimité. Elle était écornée, c'est une évidence. Mais il est assez confiant dans cette élection, le président Duchossois.
Et le président Duchossois, donc vous l'avez dit, l'élection le 18 juin. Après les matchs de l'équipe de France, il y en a peut-être des nouvelles de nos bleus. Alors aujourd'hui, c'était huis clos. Donc on n'a pas appris grand-chose.
Oui, alors ils se sont réveillés, petite batterie de tests, à la fois des prises de sang, électrocardiogrammes, parce que vous savez que le niveau de forme des uns et des autres est assez disparate, entre ceux qui n'ont pas joué depuis 3 semaines, ceux qui sont un petit peu fatigués et essorés mentalement par une saison sans titre. C'est le cas des joueurs d'Arsenal, par exemple, du Paris Saint-Germain, Guillaume Moreau, par exemple, et ceux qui sont dans l'euphorie d'une victoire, comme Eric Abidal, qui est arrivé hier soir finalement. Petite footing, il a trottiné aux côtés de Patrice Evra ce matin. Donc batterie de tests médicaux pour remettre un petit peu tout le monde à niveau dans les prochains jours. Entraînement dans l'après-midi auquel assistera Maxime Bossis, qui est arrivé, vous savez, l'ancien libéro de l'équipe de France, 3 Coupes du Monde à son actif, le grand Max, l'ancien joueur du FC Nantes, du Matra Racing notamment, et qui va passer la soirée avec eux. Donc petit entraînement cet après-midi, une journée vraiment light, mais c'était prévu dans les 48 premières heures de ce stage.
Et un mot peut-être pour conclure, Jérôme Ilagou, c'était l'autre information du jour concernant un petit peu le monde des Bleus, la Fédération Française de Football, avec la mise à pied de André Prévosto et puis Monsieur Blacard.
Petite semaine
et puis avertissement pour Alain Bogossian, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, mais pour une autre affaire, de Grosny-la-Montre, et puis François Blacard, le DTN.
Oui, ça avait fait sourire d'ailleurs Noël Le Graët la semaine dernière lors de la présentation de sa liste, quand on lui avait posé la question de savoir ce qu'il s'attendait à ce que André Prévosto soit sanctionné. Il avait fait oulala, il va être sanctionné. Ça va être 6 jours.
6 jours.
Tout ça pour ça, on pourrait dire.
Exactement.
On a beaucoup parlé. Le fond de l'affaire était assez grave. C'était les propos de la ministre des Sports à l'époque. Au final, voilà, 2 avertissements.
Et une mise à pied de 6 jours. Voilà, bon, il s'en
tout
sort
va bien.
Tout va bien à la Fédé, tout va bien pour l'équipe de France de football qui prépare C'est match face à la Biélorussie, qualificatif. Ah, demain, le Pussycat Tour, le début, Jérôme Milagou, formidable. J'espère que vous allez vous régaler. Allez, merci Jérôme.
RTL Équipe, Carrément Foot, Raphaël Sebaoun.
Et avant les débats de Carrément Foot, on est un petit peu en retard aujourd'hui, mais priorité au tennis tout de même. Le live, les internationaux de France de Roland-Garros actuellement sur le court pour une place en demi-finale. Gaël Monfils opposé au Suisse Roger Federer. Clément Grèce, Guillaume Lagnel.
Oui, ça a commencé tranquillement, Raphaël, avec Roger Federer qui a ouvert les hostilités en remportant sa mise en jeu, égalisation à l'instant sur un service bien maîtrisé de Gaël Monfils. Voilà, c'est un début de match, pas beaucoup de rythme, pas beaucoup d'intensité et pour l'instant, un jeu partout entre Gaël Monfils et Roger Federer, rappelons-le, tête de série numéro 3 de ce tournoi qu'il a remporté il y a maintenant 2 ans.
Et la bonne nouvelle, c'est que Marion Bartoli ne va plus tarder, elle aussi, à faire son apparition sur le court Suzanne Lenglen pour son match contre Svetlana Kuznetsova, ce qui nous fait dire surtout qu'on aura plein de belles choses à vivre dans cette journée à Roland-Garros.
Et messieurs, ce que je vous propose, c'est de participer avec nous, ça me fait plaisir, surtout Guillaume Lagnel, puisque je voulais l'inviter pendant de nombreuses années à cette émission, et bien le débat de Carrément Foot. C'est parti, messieurs.
Carrément Foot sur RTL Équipe, Raphaël Sebaoun. RTL Équipe, Carrément Foot.
Donc respectez-vous. Respectons-nous.
Oui, je veux être un bise.
Parce que ça suffit maintenant.
You're gonna burn it.
Non, 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 pas bon sang en même temps.
Le débat.
Débat de Carrément Fou donc avec Clément Grèze et Guillaume Lagnel en direct des internationaux de France de Roland-Garros pour nous faire vivre ce quart de finale entre Gaël Monfils et Roger Federer. Nicolas Villas de ma chaîne Sport est également présent.
Salut.
Bonjour Nicolas.
Salut.
Comment ça va?
Bien.
Bien, très bien. Salim Bangali, bonjour.
Salutations.
Mes hommages.
Fait.
Comment allez-vous très cher?
Très bien et vous-même?
Eh, formidablement bien.
Vous avez l'air tellement bien que vous êtes en train de vous dessaper presque.
Bah regarde, toi t'as mis tous les boutons de ta chemise. Ouais. Nicolas Villas, il en a enlevé un. Moi, j'en enlève
normal.
Deux. Voilà.
Normal, ces conversations.
Et bah écoutez, il paraît que vous êtes torse nu.
Dessapé.
C'est ça. Ouais. Dessapé. Ouais.
Déshabillé.
Bonne ambiance dans ce
bonne
studio.
Bonne ambiance dans le studio.
Et bonne ambiance sur le central de Roland-Garros, puisque Roger Federer est en train d'être malmené par Gaël Monfils. Qui
n'est pas dessapé pour le coup.
Non, et pas encore en tout cas. Et qui, pour l'instant, sauf 3 balles de break sur le service, donc forcément, de Roger Federer à 1 partout dans cette première manche.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Tiens, on va rester avec vous, messieurs, pour suivre ces 3 balles de break.
On allait vous le proposer avec le premier service de Roger Federer. Qui n'est pas dans le carré de service. Un partout dans cette première manche entre le numéro 3 mondial et Gaël Monfils. 3 balles de break.
La double, voilà, la double.
Pour Roger Federer. Voilà, break pratiquement d'entrée pour Gaël Monfils qui mène déjà 2-1. Service à suivre pour le français.
Bah écoutez, pour l'instant, Roger Federer, un peu tendu peut-être. C'est sa première rencontre véritablement délicate à gérer dans ce tournoi, puisque au tour précédent, il avait certes fort affaire face à Stanislas Wawrinka, mais on connaît le complexe de Wawrinka face à Roger Federer. On rappelle que les deux sont compatriotes et Wawrinka, en 15 ou 20 matchs, je crois, face à Federer, n'a remporté qu'une seule rencontre, comme s'il portait une cagoule devant ses yeux au moment d'affronter Guillaume. Franchement, au moment d'affronter Roger Federer. Là, ça se passe bien pour l'instant.
Clément,
pour
un peu sérieux, là, vraiment.
Non, mais je suis particulièrement sérieux. Et ce match-là va nous rendre sérieux parce qu'il s'annonce absolument captivant et passionnant.
Assure en fil rouge jusqu'à 18h et en intégralité après 18h sur l'antenne de RTL Équipe. Messieurs, l'information foot du jour, c'est l'arrivée donc, c'est officiel, de ce groupe d'investissement, Qatari donc, qui va arriver au Paris Saint-Germain. Messieurs, à 70% hein, de part donc actionnaire majoritaire, nouvel actionnaire majoritaire pour ce fonds de pension Qatari, donc Colony Capital qui va rester encore hein, mais minoritaire, 30% on l'aura compris, le temps que tout rentre dans l'ordre, que tout se passe bien. Première réaction, alors on a pu en discuter tout à l'heure avec Philippe Sanfourche qui était à la conférence de presse hein, en compagnie de Sébastien Bazin qui est aujourd'hui quand même l'actionnaire majoritaire de Colony Capital. L'arrivée des Qataris, est-ce une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Nicolas Villas.
Faut voir s'ils vont mettre de l'argent ou pas. Le problème, c'est qu'il y a un fantasme hein, quand même autour de ça. On se dit que parce que c'est des Qataris, ils vont tous faire comme ce qui se passe à City. Alors que c'est pas forcément le cas. Mais je t'avoue, j'ai pas suivi les tenants et les aboutissants. Ils ont déboursé combien pour avoir les 70%? On le sait ou pas?
Entre 30 et 40 millions d'euros.
Voilà, ce qui est absolument que dalle. Donc moi déjà, ça me fait un peu flipper. Mais c'est bien. Ils mettent 30
millions d'euros. C'était la valeur du Paris Saint-Germain aussi.
Ah bah moi
ah bah, aujourd'hui.
Ah bon bah écoute, franchement, le football français est descendu bien bas. Hein, parce que c'est le prix d'un joueur donc normalement. Mais soit boîte. Mais bref, bon, il y a quand même des dettes, il y a des choses à gérer. Mais c'est vrai qu'attention à pas tomber dans le fantasme. Tu vois, de se dire parce que c'est des Qataris, ils vont forcément aller chercher Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Voilà.
Enfin, il y aura sûrement plus de moyens que connaît le Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Les Américains, ils ont du blé. Hein. Fonds de pension, ça veut dire que t'es là pour un temps limité. C'est ce qu'avait dit Colony Capital. Ils étaient là pour entre 5 et 8 ans pour revendre derrière. T'es là pour gagner de l'argent. T'es pas là forcément pour en dépenser et pour blanchir de l'argent.
On va prendre l'autre exemple qui est parlant aussi. C'est l'exemple de Malaga qui a été également repris par ces mêmes personnes, hein, puisque le club
par l'un des princes du Qatar.
Exactement, hein. Par la famille qui en tout cas règne au Qatar. Et on l'a constaté à Malaga. Certes, il y a eu deux achats en tout début de saison. C'était en l'occurrence de Michaelis et Batista. Vous me l'accorderez, ce ne sont pas des foudres de guerre non plus.
Ce sont des noms.
Ce sont des noms, voilà.
Non, mais ils ont mis de l'oseille quand même, hein. Même au mercato.
Et de l'oseille, pas tant que
bah,
ça.
Écoute, on en reparle cet été alors. Parce que là, ils vont mettre le paquet.
Non, mais là, c'était une année de transition, par exemple, pour une équipe comme Malaga. Qui alors, donc, c'est ce qui pourrait ressembler d'ailleurs au PSG.
On
pourrait avoir une année de transition aussi avant, ouais. Pourquoi pas, de voir une deuxième saison.
Je sais pas, la transition, elle a l'air d'être longue au PSG quand même. Non, mais c'est vrai, depuis que Colony Capital est là. Mais tu vois, c'est vraiment le risque au fait. Hein. C'est que Colony, on le sait, alors eux, c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient d'autres ambitions qui étaient plus, on va dire, immobilières. Hein. C'était les terrains autour du parc qui les intéressaient. On va voir quelle est l'idée véritable.
Alors
on
parle de 50 millions d'euros investis par an par cette.
Bah ça, c'est très bien.
Par les Qataris. Attention, si durant la première saison il y avait effectivement, durant le prochain mercato là qui arrive dans quelques jours, s'il y avait effectivement 50 millions, il faut d'abord avec ces 50 millions éponger les dettes du club. Hein, qui sont estimés à 25 millions.
S'ils rachètent à 30 millions, ça doit, si tu veux, c'est certainement le positif. C'est-à-dire, c'est ce qu'eux mettent en plus des dettes, certainement.
Oui, donc, oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le justement. Rachat. Mais eux disent, en tout cas, c'est ce qui circule, qu'ils vont mettre 50 millions d'euros par an à disposition du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est que pour les transferts? Non, parce qu'on sait qu'il y a cette fameuse dette à effacer de 18 millions d'euros. Mais ça fait quand même beaucoup plus d'argent que ces dernières années pour acheter des joueurs.
Mais 50 millions, c'est peut-être la somme qui a été mise par Colony Capital depuis que Colony est arrivé au PSG,
même
non
pas,
en transfert.
Même pas.
Oh, si, certainement.
Même
en
pas. Transfert.
Attends, entre
grosso modo.
Les Everton Santos à 8 millions d'euros, je peux te dire qu'ils en ont fait.
Mais attends,
Néné,
ils l'ont acheté combien par exemple?
5.
5, c'est pas grand-chose.
Erding 10.
Attends, ça va vite. Hein.
Ça va vite. Ça fait, ils ont peut-être investi 20-25 millions d'euros.
Non, ça a dû monter à 30-40. Enfin bref, on va pas non plus commencer à.
Non, mais si t'as 50 millions à disposition par an, tu peux faire plus de choses qu'avec Colony Capital.
Ah bah tu fais plus qu'avec 10, ouais.
Oui, c'est sûr, mais par contre. Vous ne faites pas ce que fait City pour le coup, parce que City dépense 50 peut-être dans un transfert ou deux, pas plus.
Alors on va retourner juste au tennis Roland-Garros, puisque bah oui. Gaël Monfils mène 3-1 hein, dans la première manche
avec un super Roger Federer. Je vous l'annonce, il est à plus de 10 fautes directes depuis le début de ce match en 4 jeux. On est pour l'instant sur les bases du match Team Clijsters-Arantxarov, qui pour l'instant a battu tous les records de la discipline avec plus de 68 fautes directes pour Team Clijsters dans cette rencontre en 3-7 s'il vous plaît. Et là Roger Federer, il est complètement déstabilisé par quoi? Et bien par le vent, tout simplement. Il y a un petit peu de vent Porte d'Auteuil à Paris sur ce court Philippe Châtrier, qui est un court très très ouvert. Et on se souvient, et on sait d'abord, premièrement, que Roger Federer déteste le vent. Et on se souvient qu'il le déteste tellement qu'il peut perdre contre quasi n'importe qui. Et on s'en souvient, la dernière fois qu'il y avait eu des conditions très venteuses pour Roger Federer, c'était à Monte Carlo. Et à Monte Carlo, il avait perdu face à Jürgen Melzer en se plaignant énormément. Il fait un peu sa diva dès qu'il y a du vent, le père Roger, et pour l'instant ça profite à Gaël Monfils, qui aurait tout intérêt à profiter de ce petit passage à vide de Roger Federer pour empocher la première manche et se mettre déjà cela dans la poche.
La poche, bon, gauche. Pour, poche gauche.
Ouais, toujours.
Très bien. Guillaume Laniel, on l'entend plus.
Non, Guillaume Laniel, il est parti se désaltérer.
Bon, on le salue, bien évidemment. Guillaume Laniel, que j'avais invité au débat de Carrément Foot.
Mais tu participes. Activement.
Retour sur l'actualité donc du Paris Saint-Germain, avec l'arrivée des Qataris donc. Ça devrait plus ressembler, c'est ce qu'on se disait tous, hein, au cas de Malaga qu'à celui de Manchester City. Où,
c'est normal.
Oui, c'est normal.
Tu mets pas 100 millions d'euros pour une équipe qui joue le maintien et qui est relégable en début de saison. Tu t'adaptes aussi à la réalité. Il y aura pas non plus 100 millions d'euros qui vont être mis par les Qataris pour l'instant, du moins au Paris Saint-Germain, parce qu'ils vont pas jouer la Ligue des Champions, parce que limite l'objectif c'est même pas de gagner le titre encore une fois, c'est de jouer la Ligue des Champions. Alors tu t'adaptes aussi à la réalité, hein, et aux objectifs. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, mais c'est plutôt sincèrement, c'est une bonne affaire. Hein. 30 ou 40 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain, c'est une sacrée bonne affaire.
Et plus que le Paris Saint-Germain, ce que vous achetez, c'est le club de la capitale.
Ouais, il y a les joueurs aussi.
Évidemment, mais c'est une visibilité. Vous achetez vraiment le club de la capitale française. Donc, plus que footballistiquement parlant, c'est, je dirais, touristiquement parlant, c'est encore une fois, au niveau de la visibilité, vous achetez ce club-là. C'est
ils font ça beaucoup parler, hein, les Qatariens, depuis quelques temps.
Vous achetez
quand
pour
même
30 ou 40 millions, c'est, bah, c'est ridicule.
En même temps,
Nicolas Villas, entre eux.
On va pas jouer les économistes de comptoir, mais c'est vrai, quand tu vois la crise qui affecte l'économie mondiale, y compris les États-Unis. Alors, c'est vrai que les fonds de pension, c'est un truc à part, et que les boîtes privées qui sont délocalisées ou qui bossent un peu partout dans le monde, c'est une autre réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les pétrodollars sont bien, même si au Qatar c'est le gaz, hein, qui fait la fortune. Mais c'est vrai que tout ce qui est énergie, c'est une source qui est pas inépuisable, parce qu'elle est épuisable. Mais voilà, c'est actuellement c'est les seuls qui ont véritablement de l'argent et qui ont de quoi investir dans le foot notamment.
Et c'est vrai que le Qatar fait parler aussi, parce que le Qatar a eu évidemment la Coupe du Monde, a eu les championnats du monde de hand, a depuis quelques années un Grand Prix de moto,
le Grand Prix de Formule 1,
également Grand Prix de F1, son tournoi de tennis, enfin voilà, tellement de choses, on a l'impression que le Qatar explose.
Mais si tu veux, eux, ça légitimise leur candidature et leur victoire pour la Coupe du Monde 2022 en faisant ça. C'est-à-dire, quand ils ont gagné cette fameuse candidature, on leur a reproché le fait de ne pas être un vrai pays de sport et de football. Bah, par tous les exemples que vient d'énumérer Salim, c'est le cas. Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit eux qui alimentent le foot européen, c'est-à-dire qu'il y a quand même la référence, c'est quand même le berceau du football mondial, ça légitimise encore plus leur position au niveau du football.
Et alors, en plus, juste pour terminer, ça donne une image, et ça, effectivement, ça donne cette image de crédibilité, en tout cas au Qatar, parce que demain va y avoir l'élection de la FIFA, ouais. Et c'est vrai qu'avec cette élection, il y a ces soupçons, et j'ai bien dit soupçons, de corruption autour notamment du dernier vote et de la désignation du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Et voilà, là, on essaie de crédibiliser encore plus ce pays qu'est le Qatar.
Juste, on va retourner au tennis, Roland Garros, les internationaux de France. Il avait démarré fort, Yael Monfils, il mène 3 jeux à 2 en revanche sur son service. Là, ça se passe moins bien face à Roger Federer, Clément.
Ouais, ça se passe pas encore tout à fait mal, hein, pour Yael Monfils, qui a effectivement connu là deux premiers points de son jeu de service un petit peu plus difficile, mais 15-30 tout de même pour le service de Yael, qui pour l'instant est solide. C'est vrai qu'il y a pas mal de vent et c'est un petit peu gênant pour les deux joueurs. Pour l'instant, c'est la Monf qui en profite le mieux. On parlait, hein, de Roger Federer qui déteste ces conditions, et on voit déjà quelques petits signes d'agacement chez le Suisse, qui reste en revanche le joueur sans doute le plus talentueux du circuit, qui arrive à décocher parfois quelques coups droits exceptionnels, mais qui fait de grosses fautes directes aussi, à l'image de ce point qui permet à Yael Monfils de recoller à 30 partout sur son service, toujours 3 jeux à 2, break en poche gauche pour Yael Monfils.
Et on va voir d'ici quelques secondes l'arrivée de ces investisseurs qataris. Salim, Nicolas, est-ce que ça va changer, faire évoluer des choses dans le club, notamment dans l'encadrement? Est-ce qu'on peut imaginer Robin Leproux, on lui dit t'es gentil mais tu t'en vas maintenant, c'est nous qui prenons la main, changement de staff, d'entraîneur, ou est-ce qu'il va y avoir une sorte d'année de transition et finalement on va pas trop bouleverser les choses pour cette première saison?
On imagine mal des proprios qui en plus sont pas forcément connus pour être des techniciens, tu vois, venir s'immiscer maintenant dans l'organigramme sportif du Paris Saint-Germain. C'est pas eux, ils vont peut-être éventuellement émettre des souhaits quant à certains joueurs, ou alors du moins émettre des vétos, puisque c'est eux qui vont débourser quand même vis-à-vis de l'achat de certains joueurs. Mais de là, et suggérer des noms, puisqu'ils vont quand même vouloir faire parler d'eux, mais de là quand même à dire il nous faudrait, faut virer l'entraîneur, enfin je sais pas.
Oui, après de l'autre côté, j'ai toujours l'exemple en tête, pardon, de Manchester City, évidemment, avec le cas Mark Hughes. Il était resté certes quelques temps, mais dès que les résultats ont semblé plus ou moins intéressants, parti Monsieur Hughes, et on amène un grand nom, on amène Roberto Mancini.
Mais on a attendu quand même
plus d'une
saison pour évincer Mark Hughes, par
exactement,
exemple.
Exactement, finalement, cette année, entre guillemets, de transition. Parce que dès le début, lorsque ces propriétaires sont arrivés, on ne voulait pas non plus gagner le titre.
Ouais, mais
on
après, faut se méfier, messieurs.
Clément Grèce. Meilleur club.
Ouais, mais faut se méfier, parce que effectivement, le degré d'investissement n'est pas le même. Je me permets d'intervenir alors que j'ai rien à faire là, mais comme Guillaume Lagnier n'a pas pris sa place, je vais la prendre à sa place. le degré d'investissement des Qataris n'est pas le même que celui des propriétaires de Manchester City. Donc effectivement, on peut penser que s'ils arrivent, ils arrivent avec des ambitions sportives, parce que ça crédibilisera et ça légitimera leur arrivée. Mais on peut pas imaginer que parce que ça s'est passé comme ça à Manchester City, ça se passera de la même manière au PSG.
Non, mais en plus, tu vois, ce qui est grave là, finalement, dans le discours qu'on est en train d'avoir, c'est qu'on est en train de se demander comment va être la gestion de ces mecs-là parce qu'ils sont qataris. Enfin, on rentre dans un amalgame qui est
non,
mais moi je généralise. Non, mais si tu veux, si on se dit est-ce que c'est bien d'avoir des investisseurs qataris, je sais pas.
Non, mais le problème n'est pas qataris ou pas, c'est beaucoup d'argent qui arrive d'un coup. En l'occurrence, ça arrive toujours.
Bah, je vois pas en quoi ça un problème. Hein,
de cette zone géographique. Non, mais voilà, mais c'est ce que ça implique. C'est-à-dire beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup d'ambition, et ça veut dire forcément parfois une gestion sportive un petit peu chaotique, comme on a pu avoir l'impression que c'était le cas à Manchester City.
Au début, à Manchester City, c'est du grand n'importe quoi.
Mais le problème est évidemment pas qu'il soit qatari. Il serait américain. Les Américains seraient arrivés à 200 millions sur la table du Paris Saint-Germain. On aurait tenu exactement le même discours.
Bah oui, mais quand Colony Capital est arrivé, si.
Mais parce qu'ils sont arrivés en bon père de famille. Ils sont pas arrivés en gestionnaire pour faire du Paris Saint-Germain le grand club d'Europe.
Bah, justement, ils sont pas arrivés en bon père de famille dans ce cas-là. Ils sont plutôt arrivés pour violer les gamins, si tu veux. Donc l'idée c'était plutôt ça. Hein. Donc quand l'idée c'est de venir et de revendre les terrains du Parc des Princes, c'est pas la même.
Non, mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont arrivés avec une gestion, avec une idée d'une gestion, d'un plan économique
qui essaie de perdre le moins de blé possible.
Voilà, qui passait certes un petit peu par le sportif, mais qui arrivait. Voilà, c'est un fond quoi. Donc quand je dis bon père de famille, c'est-à-dire que ils ont.
Mais vous mentez, Clément. Les Français le savent.
Ils ont de l'argent des retraités. Des retraités floridiens et ils arrivaient pour gérer au mieux et placer au mieux cet argent pour éviter de le perdre.
Et Gaël Monfils s'est fait débriquer.
Et Gaël Monfils s'est fait débriquer, mais pour l'instant, c'est pas très très grave. La seule chose qu'on peut constater, c'est que Roger Federer, après cette petite tension liée sans doute aux conditions météo, serre le point en revenant à 3 jeux partout. Preuve, s'il en était besoin, que Roger Federer connaît l'importance de cette première manche, qu'il sait pertinemment qu'il ne faut surtout pas donner de la confiance à Gaël Monfils qui vient de jouer, on le rappelle, 2 jours consécutivement, puisque son match face à David Ferrer avait été arrêté la veille de sa conclusion par la nuit, et qu'il a ce petit avantage physique qu'il faut en profiter très rapidement, éviter l'euphorie dans les rangs du Parisien et mettre tout de suite ce match sous l'entonnoir pour lui permettre de se balader tranquillement et de poursuivre sa route à Roland-Garros.
Et on va marquer une toute petite pause sur le www.rtl-l'équipe.fr, 3 partout entre Gaël Monfils et Roger Federer.
Et de retour, je vous rassure.
Ah, très bien, on le retrouvera juste après les informations sportives, la publicité, la suite de Carrément Foot. On reviendra bien évidemment sur cette arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain. On écoutera l'analyse, bien évidemment, on l'attend, de Guillaume Lagnel. C'est l'analyse la plus pertinente, j'imagine, que nous entendrons sur le www.rtl-l'équipe.fr. La publicité, les informations sportives, la suite de Carrément Foot et les quarts de finale des Internationaux de France de Roland-Garros. Ça tout de suite.